On va continuer dans ta sélection, dans le répertoire de Jimi Hendrix. On va passer. Alors, tout à l'heure, tu as dit, lorsque tu parlais de Voodoo Child, tu as fait allusion à ses accointances avec les Black Panthers, tout ce côté militant lié au contexte politique de cette fin des années 60 aux États-Unis et puis ailleurs aussi dans le monde. Jimi Hendrix, c'est aussi, alors à sa façon, un guitariste de son temps, un guitariste engagé, on peut le dire, voilà, avec des choses qu'il a voulu dire. Et puis avec des moments où il a un peu gueulé ou joué à la face du monde, évidemment on pense à Woodstock, où il y a ces moments que plein de gens connaissent parce que on voit ce guitariste noir, il faut le rappeler, c'est très important, faire ces, voilà, comment dire, c'est plus que des clins d'œil, quoi, c'est reprendre l'hymne de son pays, le triturer, voilà, c'est quelque chose de très très fort aussi ça, à l'époque.
Alors, il est clair que l'interprétation de l'hymne américain par Jimi Hendrix a marqué son temps. Enfin, c'est vrai que si vous vous projetez juste quelques années en arrière, vous prenez l'élection de Barack Obama, quasiment toutes les chaînes de télé vous mettez en arrière-fond la version de Jimi Hendrix de l'hymne américain. Alors, il y a un aspect qui est assez fascinant quand vous regardez Hendrix à Woodstock, je vais revenir à l'hymne américain, hein. C'est de voir la différence entre la réalité d'un concert et sa remédiatisation. Faut savoir que quand Hendrix a joué l'hymne américain à Woodstock, il n'y avait plus que le dixième du public qui était encore présent, parce que Hendrix a joué le lundi matin. Hendrix était tête d'affiche à Woodstock. Son producteur a insisté pour que, malgré le retard pris au concert, ce soit quand même lui qui termine le festival de Woodstock. Mais le retard a été tel qu'en fait, Hendrix n'a pas pu jouer le dimanche soir. Et il s'est retrouvé à jouer le lundi matin devant les festivaliers qui étaient tous en train de se barrer.
Et on imagine dans quel état, en plus. Alors, on va passer quelques jours dans la boue, voilà, c'est.
Voilà, donc ce qui est assez fascinant, c'est que très souvent, quand on parle du festival de Woodstock aujourd'hui, c'est souvent quand même la fameuse version de l'hymne américain qu'on a tendance à retenir. Et il s'avère que, en fait, cette version de l'hymne américain, il devait avoir à peu près un dixième des festivaliers qui ont dû l'entendre, hein, parce que c'était à la fin du concert. Y compris pendant le concert, la plupart des gens étaient en train de se barrer. Donc, c'est assez marrant de voir la différence entre la réalité du festival et la perception qu'on en a. Alors, ce que je vous dis là, c'est d'autant plus vrai que je présume qu'un certain nombre d'entre vous ont dû voir le film de Jimi Hendrix à Woodstock. Et vous verrez que là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées dans sa vie, parce que c'est plus le Jimi Hendrix Experience qui officie, mais vous avez un groupe dont on n'est même pas sûr du nom, d'ailleurs. C'est un groupe qui s'appelait le Gibson Rainbow, le Gibson Rainbow, il a même appelé ça le Band of Gypsies, enfin il n'y avait rien de trop clair là-dedans. Et donc en fait, il y avait six musiciens sur scène. Alors là encore, c'est assez marrant de voir comment les médias vont redonner une certaine idée du festival. Quand vous regardez le film d'Hendrix à Woodstock, vous entendez trois musiciens. Je vous mets au défi, quand vous écoutez les versions officielles qui sont présentées sur DVD, vous n'entendez pas l'autre guitariste. C'est un autre guitariste qui s'appelle Larry Lee. Les deux percussionnistes qui sont plus de Mitch Mitchell, on ne les entend
Oubliez,
pas.
oubliez.
Ils sont complètement absents du mix. Donc vous voyez, c'est déjà assez intéressant de voir comment on peut recréer une légende, quitte même à la fausser. Alors après, l'écoute des disques pirates permet d'entendre le travail qui a été fait justement par les autres musiciens. D'un point de vue purement musical, on avait un groupe qui n'était pas du tout en place, mais c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, les mecs. Et il s'avère effectivement que Hendrix était dans une grande période de doute à l'époque. C'est-à-dire, souvenez-vous, je vous ai dit, dans les années 60, on sort deux disques par an. Donc, évidemment, 67, deux albums. 68, un seul album, mais un double. Et 69, c'est une année blanche pour Hendrix. Hendrix, en 69, ne sort rien. Il a un groupe qui part en déliquescence. Et en studio, là, pour le coup, il est incapable d'avancer. C'est-à-dire, et d'ailleurs, Hendrix ne terminera pas son dernier album. Mais l'année 69, c'est vraiment une année d'énormes doutes de sa part. Il est très souvent en studio, mais finalement n'avance pas. Les problèmes avec Noël Redding sont tels que certainement on a un gros besoin de sécurité. En fait, Hendrix appelle un ancien ami de l'armée, et ça permet de rebondir avec les Américains. C'est quelqu'un qui s'appelle Billy Cox. Alors c'est assez marrant parce que dans les années 60, Billy Cox, tout le monde se moquait de lui, genre, ouais, c'était l'ancien copain d'Hendrix. On s'appelle si ça y joue de la base, Billy Cox. Bon, il s'avère, n'importe quel type qui joue de la basse, c'est très bien Billy Cox, c'est un bien meilleur technicien que Noël Redding. C'est un bassiste absolument fantastique, hein, Billy Cox. Hein. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de métier et qui a un jeu de basse vraiment fabuleux. Alors là, vous l'entendrez pas sur Sacred Banner, parce qu'il joue à peine. Et il s'avère effectivement, comme je viens de vous le dire à l'instant, que Hendrix a rencontré Billy Cox à l'armée, parce qu'Hendrix, effectivement, a été militaire un certain temps, a été réformé relativement rapidement. Alors là encore, il y a controverse biographique sur les raisons véritables, on ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution politique d'Hendrix. Hendrix donne des interviews en Europe où on le questionne sur la guerre du Vietnam. Alors contrairement à la légende, hein, Hendrix n'a jamais fait la guerre du Vietnam. Hein. Ça, on peut le dire ici et là, c'est complètement bidon. Mais par contre, Hendrix a connu des gens, effectivement, qui ont fait la guerre du Vietnam. Et l'autre guitariste du groupe, Larry Lee, lui, revenait de la guerre du Vietnam seulement 3 semaines avant. Donc quand même, ça permet de poser le contexte de Woodstock. Et en l'occurrence, quand vous regardez les interviews d'Hendrix en 67, il y a une interview à un journal, alors je crois que c'est scandinave, où il explique que les Européens feraient bien d'être un peu plus reconnaissants vis-à-vis des Américains, parce que c'est quand même les Américains qui sont venus libérer les Européens des nazis. Et qu'en l'occurrence, là, les Américains font exactement la même chose au Vietnam, et que s'ils n'étaient pas là, il y a la théorie des dominos, en gros, les communistes l'emporteraient partout. Donc ce n'est pas exactement les paroles d'un grand militant pacifiste, mais ça, c'est les paroles d'Hendrix en 67. Il s'avère qu'en fait, Hendrix, pendant ces 2 années, et même tout simplement l'année où il crée l'expérience, va considérablement évoluer dans son point de vue, et même si la version de l'hymne américain qu'on connaît tous, qui est celle qui a été interprétée à Woodstock aux premières heures, enfin, dans la matinée du 18 août 1969. En fait, ça faisait déjà 1 an qu'Hendrix jouait l'hymne américain. Donc, il existe plein de versions pirates de l'hymne américain qui sont nettement intérieures à la fameuse version Woodstock. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce qu'Hendrix a pu en dire par la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hendrix a dit de cette son interprétation. Après, c'est aussi à chacun de voir... en fonction de ce qu'on dit de ses sentiments. Hein. Moi, je vous donne juste quelques clés. Chacun a son interprétation. Hendrix lui a dit qu'il jouait l'hymne américain, d'une part, parce qu'il trouvait que sa version collait à l'air du temps. En l'occurrence, on ne peut pas forcément lui donner tort. Et il a aussi dit qu'il l'a joué de cette manière-là, parce qu'il trouvait ça beau. Il ne s'est jamais trop impliqué vers 69 de manière très définitive là-dessus. Alors, je vais un petit peu anticiper sur la suite. Le morceau suivant qu'on aura, il va expliquer de manière beaucoup plus nette ses sentiments anti-militaristes qui, entre-temps, ont grandi. Bon, il y a une anecdote, par contre, qui est assez énorme, et je vais quand même me permettre de la dire. C'est l'année suivante, en 70, Hendrix donne un concert au Texas. Et il faut savoir que l'hymne américain s'est sorti du vivant d'Hendrix. Hein. C'est-à-dire, même si ce n'est pas sur un album, c'était sur... Les anciens connaissent certainement le triple album Woodstock. En fait, sur le triple album Woodstock, il y avait une moitié de face consacrée à Jimi Hendrix, où il y avait justement la fameuse interprétation de l'hymne américain, et le disque a fait un carton total à l'époque, hein, c'était numéro 1 plusieurs semaines. Et donc, c'était connu comme le loup blanc qu'Hendrix sur scène interprétait l'hymne américain. Et donc, backstage, les flics et les mecs qui faisaient la sécurité ont lancé rentrer des mecs qui sont venus menacer Hendrix, en train de lui dire, de toute façon... si jamais tu joues l'hymne américain, t'es mort. Et non seulement il a fait l'hymne américain une première fois, il a joué Machine Gun, il a même recité une deuxième fois. Donc voilà, Jimi Hendrix aussi, un mec qu'on avait, comme on dit. Donc, je vous laisse écouter l'hymne américain. Alors, petite précision quand même qu'à son intérêt. Alors là, pour le coup, vous allez vraiment voir l'aspect totalement révolutionnaire du guitariste. C'est-à-dire, l'hymne américain tel qu'il est joué par Hendrix, 3 ans avant, c'est impensable. La guitare, c'est un instrument qui ressemblait peut-être plus au piano qu'au saxophone. Et là, en l'occurrence, Hendrix se rapproche vraiment de l'esthétique du free jazz. Peut-être que certains d'entre vous écoutent des musiciens comme Albert Ayler, Pharoah Sanders ou John Coltrane, où vraiment, dans le free jazz, on a l'esthétique du cri. C'est-à-dire, on a aussi l'esthétique d'avoir une musique déconstruite. Où il n'y a pas de mélodie, où il n'y a pas de rythme, où il y a juste l'émotion. Et en fait, l'hymne américain, en fait, c'est exactement ça. Hendrix va commencer à jouer le thème, et très rapidement, en fait, la musique va se faire bruit. La guitare va se transformer en bombe, elle va se transformer en cri d'enfant qui meurt. Vous allez entendre tout ça. Et donc, c'est une vision absolument cauchemardesque de la guerre. Voilà, si vous voulez une comparaison picturale, c'est un peu le Guernica de Jimi Hendrix. Donc, voici The Star Spangled Banner. Thank you. T'es tentant, Purple Haze, hein.
Donc voilà, on était dans le côté un peu brut de Jimi Hendrix.